en rapport avec le cantique et la prière. Un premier verset à lire dans Hébreux chapitre 5, une expression du verset 12. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Vu le temps, dans le cantique, nous avons chanté quelques instants encore, et nous serons, je crois qu'avant c'était en ton sein, et maintenant à la maison. Et donc il est parlé assez souvent du temps dans la parole de Dieu. On a dit en particulier dans la prière que notre vie est brève et nous devons reconnaître que notre temps sur la terre est court, un temps bref. Et donc, il y a sans doute des enseignements à tirer du fait que le temps est bref pour chacun de nous. Alors, ça faisait penser à un verset dans le premier livre des Chroniques. Un chronique 12. Au verset 32, il est parlé des fils d'Issacar dans l'armée de David. Nous savons qu'un chronique 12 nous présente David rejeté et méprisé, et comme le Seigneur est aujourd'hui. Et donc, nous voyons que des hommes, des tribus d'Israël se sont décidés pour David. Ils sont venus à David et ils se sont séparés pour David. Et cette armée est allée non seulement vers David et s'est tenue à ses côtés. Et donc, il y a dans 1 Chronique 12 cet enseignement. David rejeté, le roi rejeté, méprisé, comme le Seigneur aujourd'hui. Et comme cette armée s'était décidée pour David, eh bien nous avons à nous décider pour Christ, venir à Christ, comme cette armée était venue à David et s'était séparée. Pour David, nous avons à nous séparer pour Christ. Et aller vers David, aller vers Christ et se tenir à ses côtés comme nous devons nous tenir aux côtés de Christ. Et alors verset 32, dans cette armée, il y avait des fils d'Issacar qui savaient discerner les temps. Vu le temps, et donc nous avons à discerner dans quel temps nous vivons. Et nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a des enseignements précis selon les périodes de temps. Et donc, les temps que nous vivons ont sans aucun doute des caractéristiques. Les caractéristiques des temps de la fin. Alors, une première caractéristique, si je me souviens bien, c'est dans Daniel 12. Il est parlé au verset 4 du chapitre 12 de Daniel. Il est dit, Et toi, Daniel, au verset 4, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc là, la parole de Dieu, prophétiquement, nous parle des temps de la fin, des temps qui nous concernent. Et dans ce verset 4, nous voyons une première caractéristique des temps de la fin. Il nous est dit, plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors, courir ça et là, on peut donner comme interprétation, ce sont des signes commerciaux. Et nous voyons dans le monde aujourd'hui que les voyages, que le commerce dans les pays vont et vient. Et nous voyons qu'un des premiers signes que la parole de Dieu nous donne sur les temps de la fin, ce sont des signes commerciaux. Et en particulier, il nous est dit que plusieurs, beaucoup, courront ça et là. Et deuxièmement, il nous est dit que la connaissance sera augmentée. La connaissance sera augmentée, il suffit de regarder les actualités. Je pense que nous sommes tous à regarder ou écouter ce qui nous est dit des actualités dans le monde. La connaissance sera augmentée, on ne fait que parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et nous voyons que dans Daniel 12, un des premiers signes des temps de la fin, c'est non seulement le commerce, mais aussi que la connaissance sera augmentée. Et nous pouvons constater aujourd'hui que ces signes sont bien présents. La deuxième chose qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est en particulier dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, je ne ferai que citer, sans commenter, où il nous est parlé des signes moraux des derniers temps. Il nous est dit, or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, etc. Et au verset 5, ayant la forme de la piété, mais ayant renié la puissance. Et donc nous voyons des signes moraux et religieux, eh bien ces signes sont consignés aussi dans la parole de Dieu pour nous avertir que dans les temps de la fin, il y aura premièrement des signes commerciaux, mais aussi des signes moraux et religieux. Et si nous lisons aussi dans la première épître de Jean, dans le deuxième chapitre, au verset 18, il nous est dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. » Et nous voyons que ce qui est tout à fait remarquable, que les premiers signes avaient étaient apparus du temps des apôtres et ont été consignés dans la parole de Dieu pour que nous comprenions aujourd'hui que les temps de la fin sont caractérisés par différents signes et dont nous sommes appelés à bien considérer, comme il nous est dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps. Alors, dans le deuxième livre des rois, peut-être en rapport avec le temps, dans le chapitre 5, où il est parlé de l'histoire de Naaman, Et nous pourrons peut-être faire un comparatif entre l'attitude d'Élisée et l'attitude de Géasi. Et alors, pouvons lire à la moitié du verset 25 de 2 Rois 5. Et Élisée lui dit : D'où viens-tu, Géasi ? Et il dit : Ton serviteur n'est allé nulle part. Ce qui était faux. Et Élisée lui dit : Mon cœur n'est-il pas allé quand l'homme s'est retourné de dessus son char à ta rencontre ? Et alors, cette question qui est remarquable : Est-ce le temps ? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements et des oliviers et des vignes et du menu et du gros bétail et des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta semence pour toujours. Et Géasi sortit de devant lui, lépreux, blanc comme la neige. On pourra peut-être y revenir. Alors, un deuxième passage de l'Écriture sur le temps, c'est dans le livre d'Agée. Premier chapitre, ainsi parle l'Éternel des armées, disant : Ce peuple dit : Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agée, le prophète, disant : Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Un troisième passage dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 13. Verset 11. Et encore ceci, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Un peu en rapport avec les derniers cantiques que nous avons chantés ce matin à la réunion de culte. Et alors, nous sommes appelés à discerner les temps, à connaître le temps. Et donc, il y a des applications pratiques de la parole de Dieu, des avertissements en rapport avec le temps dans lequel nous vivons. Alors, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, nous avons l'histoire de la guérison de Naaman, le Syrien, le lépreux. Et donc, nous avons le récit de sa purification. Et nous voyons que cet homme était un homme hautement estimé, qui a appris qu'il y avait un Dieu en Israël qui pouvait le purifier. Et nous nous souvenons de la petite servante qui est à l'origine de sa venue. Et donc, il devait apprendre que non seulement il y avait un Dieu en Israël qui pouvait le purifier, mais aussi que Dieu agit par pure grâce. Et qu'il agit dans une grâce souveraine, qu'il est un Dieu qui donne et qui agit toujours en fonction du besoin et de la misère de l'homme. Et nous voyons que, après sa guérison, eh bien, il a demandé à Élisée qu'est-ce qu'il pouvait faire pour lui. Et Élisée, qui était dans la pensée de Dieu, eh bien, nous voyons que il ignore totalement la grandeur de cet homme, et il donne ses instructions pour la purification. Mais voyons que Naaman désirait être toujours ce grand homme généreux, et donc il propose à Élisée de lui faire un don. Eh bien, nous voyons que il voulait donc le récompenser pour sa purification. Et Élisée, eh bien, il refuse toutes ses offres. Et c'est-à-dire, nous voyons que son cœur était libre de toute convoitise. Et que son souci, comme prophète de l'Éternel, c'était de le faire connaître, son Dieu, comme son vrai jour, c'est-à-dire un Dieu de grâce, un donateur qui donne absolument gratuitement. Et le Dieu d'Israël, dans cette circonstance, nous pouvons le voir à travers la purification de ce lépreux, eh bien, comme ce Dieu de toute grâce, et qui a le désir de sauver l'homme de sa misère, mais sans aucune rémunération ou récompense en retour. Et nous avons affaire aussi aujourd'hui à un Dieu de toute grâce qui offre le salut à l'homme, et en retour il ne nous demande, et il ne nous a pas demandé sinon la foi, de ne rien lui donner en retour. Alors nous voyons que Géasi, eh bien, il n'était pas dans l'état d'esprit de son maître, d'Élisée, et il lui dit, bien, au verset 25, la moitié que nous avons lu, eh bien, lui, il se précipite et rejoint donc Naaman, il est dit au verset 21, et Géasi poursuivit Naaman, et Naaman vit qu'il courait après lui, et il descendit de son char à sa rencontre, et lui dit, tout va-t-il bien? Et il dit, bien, mon maître m'a envoyé, disant, voici dans ce moment, deux jeunes hommes dans les fils des prophètes sont venus vers moi de la montagne d'Éphraïm, donne-leur, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre deux talents, et le pressa avec insistance. Et il y a deux talents d'argent, avec deux sacs et deux vêtements de rechange, et il les donna à deux de ces jeunes hommes, et ils les portèrent devant Géasi. Et quand il fut arrivé à la colline, il les prit de leurs mains et les serra dans la maison. Voyons le prophète Élisée qui était dans les pensées de Dieu, qui connaissait son Dieu personnellement, un Dieu donateur, un Dieu plein de grâce, qui a purifié donc ce grand homme, mais n'attendait rien en retour. Et nous voyons donc un Géasi qui n'est absolument pas dans ses pensées. Et donc, nous voyons que Élisée s'est rendu compte de ce qu'avait fait Géasi. Et il lui dit, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements et des oliviers et des vignes et du menu et du gros bétail et des serviteurs et des servantes? Voyons donc que l'esprit et le but de Géasi était tout autre, et l'honneur de l'Éternel n'était pas devant son âme. Il regardait il a convoité, et donc il a pu prendre donc ces choses de la part de Naaman, le Syrien. Et il y a sans doute une leçon pour nous. Une leçon. Est-ce que nous avons à cœur toujours de maintenir l'honneur de notre Dieu et de notre Seigneur, quelles que soient les circonstances? Autant Élisée avait à cœur de manifester le caractère et la nature de son Dieu, un Dieu qui donne, un Dieu de grâce. Autant Géasi était un homme plein de convoitise qui a désiré donc, qui regardait et qui a désiré et convoité cet argent, et un homme donc qui n'avait pas l'Éternel devant son âme pour manifester comment était son Dieu ou son Seigneur. Et donc, il y a sans doute une leçon dans ce « est-ce le temps de prendre de l'argent ?» Est-ce que, à travers notre vie, et je crois que c'est ce qu'on a exprimé dans la prière, est-ce que nous considérons que nous sommes de vrais témoins de Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes aussi des témoins de Dieu ? Et est-ce que nous manifestons et nous montrons les caractères de notre Dieu à travers les circonstances que nous traversons? Et donc là, le temps de Dieu, eh bien, c'était pas de prendre de l'argent. Et nous voyons les conséquences terribles. Et nous voyons que Géasi, donc, est sorti, est devenu lépreux, blanc comme la neige. Et il y a eu donc ce jugement de la part de Dieu immédiat par rapport à cet homme. Le deuxième passage que nous avons lu, c'est dans le livre d'Agé. Verset 3. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Est-ce le temps? Donc là, une deuxième illustration de est-ce le temps? Et donc nous devons bien comprendre que nous vivons un temps particulier, sans doute des temps de la fin, et comprendre ce que Dieu nous demande dans ces temps de la fin. Et le livre d'Agé, bien sûr, nous parle du fait que par son infidélité, le peuple d'Israël donc avait été chassé de son territoire et déporté à Babylone. Et qu'il nous est dit aussi qu'un résidu avait été rétabli dans le pays, et uniquement aussi par la miséricorde souveraine de Dieu. Et donc il y avait un petit nombre de témoins qui étaient présents, qui étaient retournés, et donc Dieu l'avait ramené, l'avait maintenu et préservé, malgré l'opposition des ennemis d'Israël qui étaient autour, afin qu'ils puissent manifester, donc rendre témoignage du nom de l'Éternel, de leur Dieu, un témoignage sans doute à sa sainteté, à sa fidélité, à sa vérité. Et nous savons que c'était en rapport, si nous lisons Esdras et Néhémie, en rapport avec l'autel, avec la maison et Jérusalem. Et alors, si nous lisons Esdras et Néhémie, et les prophètes qui sont reliés à ce sujet, nous voyons qu'il y a eu un travail remarquable de Dieu depuis le départ, et donc ils ont commencé avec ce but et cet objectif, donc, de travailler à la maison de Dieu, à la maison de l'Éternel. Et alors, dans le livre d'Agé, nous comprenons que ce zèle du premier temps, eh bien, il a baissé progressivement. Et ils ont oublié, donc, leur mission première, et ils ont négligé la maison de Dieu. Et donc, nous voyons cette question de la part d'Agé qui transmettait donc la parole de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées ? Cela voulait dire, mais est-ce que vous avez oublié ce qui m'est dû ? Est-ce que vous avez oublié, c'était ce qui est convenable pour moi ? Et donc nous pouvons nous poser aussi la question en relation avec la maison de Dieu aujourd'hui. Est-ce que nous oublions quelquefois ce qui est dû à Dieu dans sa maison ? Et là nous voyons qu'ils s'occupaient beaucoup plus de leur maison que de la maison de l'Éternel, de la maison de Dieu. Et donc, cette question que Dieu pose par l'intermédiaire d'Agé, mais est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées ? Et il est ajouté, tandis que cette maison, ma maison, est dévastée. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies, vos cœurs. Donc la première illustration, c'était bien d'être des témoins de notre Dieu et des caractères de grâce de notre Dieu. Et en rapport avec l'état de nos propres cœurs, bien sûr. Nous avions vu Élisée, qui avait toujours l'Éternel devant lui, et manifestait les caractères de son Dieu. Et Géasi, pourtant, qui était si proche, eh bien, la convoitise qui est née dans son cœur. Dans Agé, est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées ? Quelle est notre priorité ? Est-ce une vie confortable ou est-ce la maison de Dieu ? Alors, le troisième passage que nous avons lu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 11, « Et encore ceci, connaissant le temps. Donc nous devons prendre conscience du temps ou de l'époque dans laquelle nous vivons. On parle souvent que nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est vrai. Manifestement, nous ne sommes pas au moment de l'Église primitive, dont tu nous as parlé dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Et si nous suivons bien l'histoire de l'Église à travers les Actes des Apôtres et aussi toutes les Épîtres, nous voyons bien que nous arrivons à un temps qui est difficile, avec autour de nous des signes commerciaux, des signes moraux, des signes religieux. Et nous voyons donc, Romains 13, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. et je pensais en particulier en relation avec la prière que nous avons exprimée tout à l'heure en rapport avec la brièveté de la vie. Un bref instant et nous entrons dans l'éternité. Et donc, aux yeux de Dieu, cet instant est pour nous-mêmes a une immense valeur. Et c'est un instant pendant lequel nous avons le privilège de servir Dieu, de souffrir avec lui et pour lui, sans doute de proclamer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit aussi dans notre prière, de le connaître, de l'aimer, c'est-à-dire au fond de vivre à la lumière de l'éternité. On peut se souvenir de ce que le Seigneur Jésus a dit dans le sermon sur la montagne à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre ». Est-ce que nous sommes le sel de la terre ou est-ce que le sel a perdu sa saveur? C'est une question que nous devons, chacun de nous bien sûr, nous poser. Je pense aussi dans le premier épître ou deuxième épître de Pierre, deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 11, « Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu ?» Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété ? C'est la parole de Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle directement. C'est sans doute une parole d'exhortation. Quelquefois c'est difficile de supporter les paroles d'exhortation. Nous n'aimons pas, ou individuellement, même collectivement, nous n'aimons pas les paroles d'exhortation. Mais la parole de Dieu, bien sûr, contient beaucoup de paroles d'exhortation que nous puissions écouter.
God.